savoir très transformé en beau corps pas humain, ça évitera de me tordre le dos. Voilà, c'est de savoir pourquoi et comment mener des discussions en éthique et pourquoi tout simplement il faut discuter et discuter assez longuement. L'exemple que je vais prendre là, c'est de l'éthique clinique, donc c'est de l'éthique sur un cas. Et vous voyez les sujets dont vous avez parlé dans vos différents pôles, c'est de l'éthique générale et ça pose notamment le problème de la différence entre l'éthique et la politique. C'était les 10 dernières minutes ou le dernier quart d'heure là. Et moi je n'ai pas parlé de ça, je vais parler de l'éthique des cas cliniques. Donc ça serait un autre sujet de savoir distinguer ce qui est éthique et ce qui est politique, mais je ne vais pas le traiter là. Et pour ça, donc, je vais faire une distinction entre ce qu'on appelle la rationalité et ce qu'on appelle le raisonnable. Et le gros morceau, ça va être la rationalité, bizarrement, parce que c'est ce dont vous avez l'habitude, et il faut bien en dégager toutes les implications et tous les chemins dans lesquels les discussions éthiques sont emmenées quand on parle de rationalité. Voilà, maintenant, je vais essayer d'être concret. C'est parti. La rationalité, donc, d'abord, c'est un modèle mathématique. Quand on parle de rationalité, c'est des maths, c'est-à-dire ça va être la prévisibilité d'un traitement, ça va être l'optimalité d'un traitement, ça va être la reproductibilité d'un traitement. En fait, comme vous le savez, quand vous prenez une décision clinique, c'est basé sur des calculs, des machines, etc. Et c'est issu d'un travail de formalisation informatique, scientifique, etc., qui est mathématique. Et on pourrait croire que faire de l'éthique, c'est corréler, si vous voulez, les différentes manières de calculer, c'est examiner sous tous les angles un problème en percevant au maximum toutes les variables. En fait, ça, c'est pas de l'éthique. Ça correspondrait, si vous voulez, aux réunions de concertation pluridisciplinaire qu'il y a en oncologie. Quand on fait venir l'oncologue, on fait venir le chimiste, on fait venir l'informaticien qui s'occupe de la base de données de santé, on fait venir celui qui fait les soins de suite à la maison, etc. Et puis, on essaye de voir les optimums pour chacun et comment on peut concilier ces optimums du soin en fonction des algorithmes décisionnels, des algorithmes de résultats, etc. Ça, c'est les RCP. Si on confond les RCP avec l'éthique, ça donne ce que j'appellerais ici la version 1 de l'éthique. Ça veut dire que l'éthique, les réunions d'éthique, elles vont vérifier ce qui aura été fait et puis elles vont essayer de détecter des erreurs humaines qui vont être soit des erreurs de calcul, soit des erreurs de perception. Vous n'avez pas vu tel truc, ou là, vous avez mal calculé ce qu'il y avait à faire à partir des éléments qu'il y avait au départ, vous voyez. Et donc c'est de l'éthique correctrice, mais c'est pas de l'éthique en fait, mais on pourrait confondre ça avec une correction des erreurs qui ont été faites, et on ferait en fait des commissions d'éthique, des processus de révision sur une base rétrospective, en essayant d'identifier des difficultés particulières, voilà. Et le problème, et c'est sans doute ce qui se passe souvent dans les saisines, c'est que quand on fait ça, on glisse de l'éthique à l'erreur et puis à la faute, et donc ça gêne considérablement les gens, parce que ça les culpabilise, et ça rend les choses difficilement discibles, rapidement conflictuelles, sur des imputations de négligence, etc. C'est l'éthique V1, ça va, c'est à peu près clair. Et si vous voulez, l'éthique V1, elle est condamnée à disparaître, si on a confondé avec l'éthique tout court, puisque les IA font exactement ce travail-là. Si vous recourez au système expert d'IA, vous avez une perfectibilité des calculs, vous avez une excellence dans la détection des imageries, par exemple, qui font que les IA, ce travail-là, elles le font très bien, elles le font de mieux en mieux. D'accord ? Mais ce n'est pas de l'éthique. Pourquoi c'est pas de l'éthique? Alors, on pourrait dire que l'éthique intervient pas seulement quand il s'agit de corriger les erreurs ou de voir des trucs qui n'ont pas été vus rationnellement, mais parce qu'il faut prendre en compte les incertitudes. C'est-à-dire, la médecine opère sur des cas individuels et sur des processus biologiques dont on ne connaît pas toutes les variables. Et en fait, quand un problème d'éthique se passerait, c'est qu'il y a eu une incertitude malgré les calculs probabilitaires, et ça aurait posé un problème éthique. Vous avez, et Robin pourrait en dire beaucoup là-dessus, un problème de rétrospectivité, c'est-à-dire, si les problèmes éthiques, ça serait des mauvais paris ou des mauvaises tentatives au sein des calculs de probabilité, le problème c'est que, si vous voulez, on sait après qu'on n'aurait pas dû le faire parce que ça n'a pas marché. Mais si ça avait marché, et il y avait des probabilités pour que ça marche, il n'y aurait pas eu de problème d'éthique. C'est-à-dire que si on confond l'éthique avec la gestion de l'incertitude, ça marche dans les deux sens. Parfois, les incertitudes, ça tourne bien et il n'y a pas de problème d'éthique. Et quand ça tourne mal, on dit qu'il y a un problème d'éthique. Mais excusez-moi, c'est juste pas de bol, en fait. Donc, il faut ne pas limiter la question à l'éthique, c'est gérer les cas où, malgré les calculs de probabilité qu'on a fait, ça a mal tourné. Parce que ce que ça veut dire, quand on fait des calculs de probabilité complexes et qu'on n'arrive pas à faire le tour de la question, c'est que toute question médicale s'inscrit en fait dans du non-médical. Les calculs de probabilité et leurs limites indiquent qu'il y a non seulement du hasard et de l'incertitude au niveau des corps biologiques, etc., mais au niveau des environnements dans leur totalité. Je ne vais pas développer ici, mais il ne faut surtout pas confondre les statistiques, les probabilités et un pari. J'ai l'impression que j'ai démarré sur les chapeaux de roue, je vais pas trop vite.
Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Bon, alors si vous prenez les statistiques c'est des calculs exacts parce que ça opère sur des ensembles clos. Vous faites des statistiques, par exemple, sur le CHU de Lille, c'est un ensemble qui existe, qui est fini, avec un personnel fini, vous avez des chiffres qui sont vrais. Le problème des probabilités, c'est que ça opère sur l'infini. Pour calculer des probabilités, vous faites un raisonnement mathématique abstrait qui va passer d'un ensemble fini à un ensemble infini. Ce qui fait que les probabilités sont un outil de description de la réalité, mais ne décrivent pas la réalité. C'est une tentative d'interprétation de la réalité. Vous comprenez ce truc-là ? On passe à l'infini, donc c'est pour ça que quand on lance un dé, on peut très bien lancer les dés 100 fois et ne pas avoir un résultat, alors qu'en termes de probabilité, au bout de 100 fois, on doit tous les avoir. Mais ça n'est pas exclu. Et donc j'arrive là, quand on fait un pari clinique ou un pari en hôpital, on fait un pari dans des ensembles qui sont à moitié fermés. C'est-à-dire, il y a des données qu'on possède, et puis il y a des données qu'on ne possède pas, et le malade prend part dans un complexe hospitalier, familial, etc., qui fait que c'est à moitié clos. Vous comprenez la différence entre les statistiques, les probas pures biologiques et les paris. Les paris cliniques, c'est vous avez quand même à un moment donné, par exemple, le bloc opératoire, il fait partie de tout l'hôpital, et il peut y avoir des problèmes autour du bloc, une infirmière qui tombe malade, un anesthésiant qui n'est pas dispo, etc., et qui vont venir perturber les calculs de proba, il va falloir faire avec. Donc c'est des ensembles mi-clos, j'appelle des ensembles mi-clos. Et c'est important, parce que je vais arriver à l'éthique par ce biais-là, parce que vous avez un contexte. Donc vous avez un contexte aux interventions médicales. Et la première étape qu'on fait en général, c'est qu'on dit bah, il y a un contexte humain et il y a un contexte médical. Et l'éthique, ça consiste à prendre en charge le contexte humain, en plus ou à côté du contexte médical. Quand on en est là, je vous dis, c'est pour ça que je voulais avoir un peu de temps pour y aller très progressivement. Quand on distingue le contexte humain et le contexte médical, le premier problème, c'est allez-y, définissez-moi ce que c'est l'humain. Et définissez-moi exactement ce que c'est le médical. Donc, cette distinction, elle est fragile parce que le terme d'humain, pour ne pas dire le terme médical, sont très très vagues et donc ne permettent pas de bosser, si vous voulez. On ne va pas très loin avec cette distinction. Et en plus, ça va ? En plus, le problème, c'est que on peut rabattre toutes les données humaines sur des questions médicales. Je vous donne un exemple. L'arrêt des traitements. Est-ce qu'il faut continuer ou arrêter les traitements ? En fait, c'est très facile de dire que cette question-là est exclusivement médicale. Pourquoi ? Parce que vous, en tant que clinicien, vous avez une expérience clinique Et vous avez également une expérience clinique de l'arrêt des traitements, de ce que ça va impliquer de social, de psychologique, etc. Donc vous êtes expert, entre guillemets, à cause de votre expérience clinique, de l'arrêt de certains soins, ce que chaque patient n'est pas, puisque c'est la première fois que ce patient, et c'est la dernière vraisemblablement qu'il est confronté à l'arrêt de ses propres traitements. Donc, si vous voulez, vous avez une expertise médicale sur la totalité de ce qui se passe auprès du malade, et ce qui se passe, c'est que vous n'avez donc pas une opposition entre l'humain et le médical, vous avez une opposition entre l'expert médical, qui a son expérience clinique et toutes ses connaissances de physiologiques et médicales, et puis le patient qui est non expert. Ça va ? Donc on en arrive à l'opposition non pas entre médical et humain, mais entre expert et non expert. Ok ? Si vous en arrivez à l'opposition entre expert et non expert, la figure de l'expert, c'est celui ou celle qui sait. Vous êtes expert, vous avez l'habitude, vous avez 30 ans de métier, vous savez les trucs. Normalement, vous devez pouvoir les expliquer à vos patients et vous avez une première figure des discussions éthiques et de leur aboutissement qui peut être exacte mais qui est quand même très limitée, c'est l'erreur de communication. C'est-à-dire, dans les discussions éthiques, vous avez l'expérience clinique et l'expertise clinique au sens large qui, à un moment donné, se plante, ça ne marche pas avec un patient, et on va avoir tendance à dire, puisque ce n'est pas une erreur médicale, puisque par ailleurs on a de l'expérience clinique et qu'on connaît bien ce genre de cas, si ça a foiré là, c'est parce qu'on s'est mal expliqué auprès du patient. Donc c'est la grande thématique, erreur de communication. Et donc l'éthique, c'est apprendre à modifier sa communication, apprendre à parler aux patients, etc. Ça va ? Vous voyez comment on y arrive ? Oui ? Bon. Et le problème là-dedans, c'est que... Vous n'avez pas de questions ? C'est bon ? C'est parce que je sais que je vais vite pour tout cadrer dans les 20 minutes, mais si jamais... Bon. Donc... Non pas opposition médecine, non pas l'erreur, c'est pas un problème d'erreur médicale, c'est pas un problème d'opposition entre la médecine et l'humain. Là, j'en suis à opposition entre expert et non-expert, voyez, et donc j'en arrive à l'idée que si l'expert n'y arrive pas, c'est qu'il a commis une erreur de communication, puisque en tant qu'expert, il sait. Vous voyez, donc c'est souvent un aboutissement initial des réunions d'éthique clinique. Le problème, c'est que vous pouvez très bien dire qu'au niveau du contenu, et pas seulement au niveau de la communication, il y a eu un problème. Pourquoi au niveau du contenu ? Parce que quand on communique avec quelqu'un, on communique quelque chose. Et encore une fois, Robin vous l'expliquerait mieux que moi. Des fois, on communique très mal et ça se passe bien, et des fois, on communique très bien et ça se passe mal. Donc c'est bien la preuve que il y a parfois des problèmes de ton. Et donc j'en arrive au problème de ton. Ça va ? Donc j'arrive vers la fin de l'analyse du rationnel. Au niveau des problèmes de contenu, la première tentation, c'est d'opposer le rationnel et l'irrationnel. C'est-à-dire, je reprends mon exemple du patient en fin de vie, avec les problèmes d'arrêt de traitement. Le patient veut, par exemple, que les traitements continuent, et donc vous allez avoir la rationalité clinique et médicale que vous connaissez, et les croyances, par exemple, religieuses du patient, qui vont venir demander une poursuite des traitements. Si vous voulez tout savoir, le premier développement sur rationnel et raisonnable qu'on a élaboré avec Robin venait d'un problème, notamment de croyances religieuses et de destin par rapport aux religions. Alors, dans ce cas-là, quand on oppose la rationalité médicale et l'irrationalité des patients, et qu'on l'oppose non pas en termes de communication et de contenu, mais de contenu, vous voyez, vous avez l'irrationalité des gens et la rationalité technique et clinique, dans ce cas-là, ce n'est pas la communication qui va venir sur la table, c'est la figure du psy, de l'aumônier, du pluridisciplinaire. C'est-à-dire, on va dire, il faut qu'on parle à plusieurs avec la patiente ou le patient pour lui faire changer d'avis, pour que son système de croyance s'accorde avec la rationalité clinique et médicale. Donc vous allez avoir, encore une fois, le psy, l'aumônier, le pluridisciplinaire. Le problème de cette solution, qui peut encore une fois parfois en être une, c'est que vous avez un séquençage des interlocuteurs, c'est-à-dire le patient, il va voir un psy, il va voir un aumônier, il va voir un médecin, il va voir une assistante sociale, à chaque fois il va les voir séparément, ça ne va pas forcément favoriser l'évolution des positions et des avis. D'accord ? Et donc, il y a une dernière chose à voir, c'est pas une opposition entre la rationalité et l'irrationalité, c'est une différence de valeur. Et là, Olivier, ça y est, on arrive enfin en philo, il va nous casser les pieds avec la valeur, il a que ça en carte. Alors, je vais abattre mes cartes. Est-ce que, si on parle de valeur, on fait une opposition entre le rationnel et l'irrationnel ? C'est-à-dire, est-ce que les valeurs, c'est irrationnel ? C'est, comme on dit, c'est là le point. Et en fait, bah, peut-être pas. C'est-à-dire, il ne faut sans doute pas opposer la rationalité des raisonnements et l'irrationalité des valeurs. Donc, par exemple, les valeurs religieuses et la rationalité médicale. Pourquoi ? Parce que les divergences au sujet des valeurs, c'est deux jugements différents au sujet d'une même chose. Vous avez la même connaissance et vous n'avez pas le même avis à partir de la connaissance que vous avez. La valeur, ce n'est pas de l'irrationnel qui s'ajoute au rationnel, c'est une différence de jugement. Vous savez exactement la même chose que l'autre, mais vous ne jugez pas de la même façon. Exemple, vous avez quelqu'un qui a une maladie mortelle à court terme, qui a les mêmes informations et qui d'ailleurs a bossé 10 ans au CHU avant de changer de métier et de devenir artiste peintre. Mais il s'y connaît quand même en médecine. Et donc, vous lui proposez de vivre 6 mois de plus au CHU de Lille, avec des traitements appropriés et des allers-retours à la maison. Et lui, il vous dit, oui, pourquoi pas, mais moi j'ai envie d'aller mourir dans ma région d'origine, et je vais vivre 3 mois dans ma région d'origine, et mourir là-bas. Vous voyez bien qu'il a les mêmes connaissances que vous au départ, qu'il est parfaitement rationnel, mais qu'il ne va pas avoir le même jugement de valeur, qui n'est pas irrationnel, qui est juste une différence de jugement. Ça va ? Et donc j'arrive à la fin, c'est là qu'intervient le raisonnable, le fameux raisonnable. Dans le raisonnable. Et donc ça va aller beaucoup plus vite, parce que c'est à la fois ce qu'il y a le plus important et de moins descriptible. Mais si je vous l'avais dit comme ça, vous m'auriez pris pour un philosophe pur. J'espère que je suis un philosophe impur. Donc, dans le raisonnable, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une multiplicité de valeurs, d'accord ? De jugements de valeurs différents qui ne sont pas rabattables les uns sur les autres. C'est-à-dire la valeur de la souffrance familiale, la valeur de la souffrance personnelle, la valeur du coût des traitements, la valeur du progrès médical, la valeur de l'espérance de vie, la valeur du bien-être, etc. Tout ça, vous ne pouvez pas les rabattre dans un calcul formel pour mathématiser ces rapports entre ces différentes valeurs. Ce n'est pas mathématisable. Je vais vous prendre un exemple négatif, si vous voulez bien. Par exemple, on peut calculer la qualité de vie par calcul de temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Pardon. Vous temporalisez la qualité de vie. Donc, vous prenez la valeur temps et vous rabattez toutes les autres valeurs sur le temps. Vous voyez ? Combien de temps vous seriez prêt à perdre en espérance de vie pour ne pas avoir ce traitement, etc. C'est des techniques de qualité de vie et c'est des techniques de traitement. Mais dans ce cas-là, vous avez un écrasement des valeurs particulières, familiales, etc., sur le temps. Et en fait, pourquoi on utilise le temps ? C'est parce que ça se quantifie, donc ça peut se mettre dans un ordinateur. Et après, on peut faire des études de sociologie dessus. Mais en dehors de la quantification par le temps, vous voyez bien que vous avez une multiplicité de valeurs qui ne peuvent pas, vous ne pouvez pas comparer le bien-être d'une famille avec le bien-être de quelqu'un en termes de chiffres. Ce n'est pas comparable. Alors, ces valeurs non commensurables, l'intérêt, c'est qu'elles forment aussi des buts différents. Quand vous avez des jugements de valeurs différents, vous avez aussi des buts différents, et donc, en éthique, il y a forcément, et parfois ça va très loin, du contradictoire et du conflictuel. Il ne s'agit pas de calculer des erreurs, de corriger des erreurs, etc. Il y a vraiment des oppositions majeures qui peuvent éclater dans les commissions d'éthique et qui peuvent, a fortiori, éclater dans les services en face d'un cas clinique. Et de là, dans les discussions éthiques, on va essayer de faire quelque chose de bien particulier, non pas déterminer les meilleurs moyens. Il ne s'agit pas de déterminer les meilleurs moyens, il s'agit de déterminer le bon but, la bonne norme de traitement. Donc non pas une question de moyens, non pas une question d'optimale technique, mais une question de but. C'est quoi le but? Est-ce que c'est de faire vivre le plus longtemps possible? Est-ce que c'est que la famille elle ait la paix? Est-ce que c'est que l'équipe elle ait la paix parce qu'elle en a marre, l'équipe soignante, etc. Et vous avez deux grandes alternatives. Il faut déterminer le bon but ou la bonne norme, et parfois il faut déterminer un nouveau but. C'est-à-dire il faut changer de regard sur le cas. Et c'est le propre de la notion de raisonnable. Si vous prenez le rationnel, le modèle du rationnel et le point de fuite du rationnel, c'est les intelligences artificielles. Si vous prenez le raisonnable, où il s'agit non pas de déterminer le plus efficace, le plus exact, mais des nouveaux buts ou le meilleur but parmi les buts qu'on connaît déjà, il faut procéder autrement. Et il faut procéder par discussion. Donc ça sera mes derniers mots ici. La discussion éthique et les commissions d'éthique qui reposent sur la discussion existent sous la forme de discussions collectives, pluridisciplinaires, collégiales, entre personnes qui n'ont pas les mêmes statuts, les mêmes savoirs et les mêmes expériences, pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que seule la discussion peut amener de nouveaux points de vue. Et la discussion amène de nouveaux points de vue, pas par magie. Je ne suis pas en train de dire que quand on rencontre quelqu'un et quand on discute dans une assemblée, on a nécessairement des nouveaux points de vue. C'est parce que le fait de discuter avec quelqu'un d'autre, ça va donner des nouvelles idées sur les buts. Si vous réfléchissez tout seul, vous allez toujours réfléchir en termes de meilleurs moyens. Par exemple, l'exemple que je prends tout le temps, c'est vous avez 20 ans, vous devez choisir un métier. Vous vous dites, est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que je veux être célèbre, etc. Vous réfléchissez à différents buts. Si vous discutez avec quelqu'un d'autre que vous, il va éventuellement vous montrer qu'il y a d'autres buts possibles. Et c'est tout l'intérêt des intervenants extérieurs dans les commissions d'éthique. Il faut bien distinguer l'intervenant extérieur en tant que consultant, c'est-à-dire le gars qui va arriver et qui va dire « Ok, vous avez examiné ça, et vous avez envisagé ce traitement-là, dans ces buts-là, mais peut-être que vous pourriez avoir un autre but, peut-être que vous pourriez faire autrement. » Donc, dans ce sens, le regard extérieur dans les commissions d'éthique n'est pas un regard d'expert extérieur, mais un regard de consultant. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est l'importance de la temporalité. Pourquoi est-ce que quand il y a un cas d'éthique clinique, il faut plusieurs réunions? Pourquoi est-ce que on ne peut pas régler le truc en une heure? Alors, c'est quand même un truc important. Une IA, vous faites tourner l'ordi, normalement, dans un temps limité, vous avez une réponse. Les êtres humains, pour une raison a priori obscure, parfois ont besoin de se réunir trois fois à deux mois d'intervalle pour régler dans le cas. La première raison, c'est parce qu'il s'agit de décisions graves. Les décisions graves, comme il a été dit dans le choix des sujets tout à l'heure, engagent des affects. Et quand on a une décision grave à prendre, en général, on veut en finir vite. Parce qu'on doit juger les autres et on sait qu'en prenant la décision, on va être jugé par les autres. Comme on a peur de ça, comme on en a marre de devoir réfléchir, on veut juger vite. Et le danger, il est là. C'est que pour juger bien dans ces cas-là, il faut ralentir les affects, donc il faut se forcer à ne pas prendre de décision tout de suite. Et en plus, pour percevoir ce qui est important, pour non pas ce qu'on a raté, mais ce qui semble finalement plus important dans le cas, il faut du temps, parce que si vous réfléchissez à ce qui est important pour vous, vous ne pouvez pas le savoir tout de suite, vous devez y réfléchir et attendre que les mêmes choses reviennent tout le temps. Est-ce que le plus important, c'est que je prenne ma garde ou que je parte en vacances? Si vous vous posez la question comme ça et que vous n'y répondez pas tout de suite, vous êtes obligé d'attendre pour savoir si finalement c'est quand même l'idée de vacances qui vous revient tout le temps en tête, ou c'est l'idée de « il faut que je fasse ma garde, comme ça je serai tranquille le trimestre prochain ». L'important, pour être déterminé, nécessite du temps, c'est-à-dire nécessite de revenir à l'esprit. Quand on réfléchit à quelque chose, pour pour déterminer l'important, il faut percevoir ce qui se répète en nous, au niveau du vécu et de la manière dont on pense à un cas. Et ça, pour percevoir que quelque chose se répète, il faut attendre que ça se répète. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs réunions et des intervalles de temps entre les réunions. Voilà, j'ai été au pas de course, mais j'espère que...
Je veux ça.